Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Alors vous savez que ma chaîne est une chaîne d'exploration, une chaîne d'expérimentation, une chaîne d'interview, de questionnement, de remise en cause. Et aujourd'hui vous allez assister donc à l'interview avec Salomé qui est une spécialiste, comme vous allez le voir, du régime cétogène. Alors juste avant de démarrer cette interview, je voulais vous préciser pour les personnes qui ne connaissent pas l'alimentation cétogène, qu'il s'agit d'une alimentation qui est dite ancestrale, puisque nous l'avons utilisée pendant des millions d'années, hein, au moins 3 millions d'années. Et c'est une alimentation qui est basée sur la consommation importante de graisse issue des produits animaux essentiellement, un peu de protéines bien sûr, même pas mal de protéines, mais pas au-delà de 20% des apports énergétiques contre 75% à peu près pour les apports en graisse, et une très faible part réservée aux glucides, une part réservée bien sûr aux végétaux en petite quantité que les végétaux qui ne sont pas donc sucrés. Et pour vous montrer qu'en fait il y a des recherches qui sont faites sur l'alimentation cétogène depuis au moins une quinzaine d'années, hein, des recherches approfondies, même si ça existe depuis une centaine d'années, voici un résumé de méta-analyse qui montre les effets du régime cétogène sur votre santé. On sait que le régime cétogène aujourd'hui améliore essentiellement la sensibilité à l'insuline, améliore les diabétiques, réduit le stress oxydant, les inflammations internes, augmente les défenses antioxydantes, réduit la consommation d'oxygène, vous avez perte de graisse, prévention des maladies cardiovasculaires, une meilleure circulation, etc. Alors si vous regardez le schéma, vous avez une comparaison en rouge de l'alimentation cétogène type Atkins, donc très riche en produits animaux et très pauvre en sucre. Et comparé à un régime low fat, c'est-à-dire riche en produits glucidiques mais très réduit en graisse, donc un régime donc plutôt hypocalorique, riche en glucides. Et on a dans les deux cas des améliorations de santé sur pratiquement tous les paramètres de santé, sauf pour certains d'entre eux avec le régime pauvre en graisse. Il y a des déséquilibres par rapport aux ApoB, ApoA1, etc., qui doivent être du côté basse et qui montent vers le haut. Alors, on a une amélioration du HDL, en particulier avec le cétogène, comme vous voyez, une amélioration très forte des triglycérides, une amélioration, etc., d'autres facteurs comme l'insuline, le HOMA, qui sont aussi le cas dans les régimes low fat, mais à des niveaux moindres. Donc c'était pour vous montrer qu'il y a des études qui sont faites, qui donnent ces résultats-là. Moi, je suis en train de le vivre, vous le savez, mais je n'ai pas forcément obtenu tout à fait les mêmes résultats pour l'instant, parce que j'étais dans une situation un peu particulière, mais je pense être sur la bonne voie et on va voir ce que Salomé en pense. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Je suis aujourd'hui très heureux d'accueillir Salomé Selouk. Bonjour Salomé.
Bonjour Jean-Brice, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, avant de démarrer cette interview dans laquelle j'attends beaucoup de réponses, je voulais vous expliquer juste que ma chaîne, c'est une chaîne donc d'information, de réflexion, d'expérimentation, mais ce n'est pas une chaîne de conseils. Donc, on ne va pas donner des conseils ici parce qu'il faut individualiser les choses. Par contre, on va essayer d'aller pousser la réflexion un petit peu au-delà de ce que vous connaissez peut-être déjà de Salomé. Alors, pour vous introduire un petit peu cette vidéo, je suis très heureux d'accueillir Salomé parce qu'elle a un niveau d'expertise très élevé, elle est aussi très bienveillante et elle sait faire partager beaucoup de choses sur sa chaîne, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, on mettra les liens. Et Salomé a déjà été interviewée dans le cadre donc de l'alimentation cétogène sur de nombreuses chaînes comme Eat Fat to Be Fit, chez Johanna Camarata, chez Jérémy Vitali TV ou chez David Delorme-Vert où elle a fait plusieurs passages qui sont très intéressants d'ailleurs. Si vous débutez en cétogène, je vous invite à aller consulter cette chaîne. Et comme je ne veux pas de redites, j'aimerais qu'on aille plus loin dans la réflexion et j'ai préparé justement des questions sur des sujets qui sont parfois un petit peu controversés dans le domaine du cétogène, de la nutrition. C'est vers ces sujets-là qu'on va aller. Vous savez que je suis en cétogène depuis à peu près 4 mois et demi. Pour Salomé, c'est beaucoup plus, elle va vous dire ça. Dans le cadre de mes recherches un petit peu sur le cétogène depuis une dizaine d'années, puisque j'ai écrit un livre hein, qui parlait beaucoup d'inversion de diabète, de maladies métaboliques, j'ai beaucoup avancé sur ces sujets-là, mais j'ai encore pas mal de questions et à mesure qu'on avance, eh bien, on s'aperçoit qu'on sait de moins en moins de choses. Et j'aimerais bien qu'il y ait des éclairages là-dessus et c'est, j'espère, toi, Salomé, qui va nous en apporter une partie au moins. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques succinctement pourquoi tu en es venu au cétogène ou même au cétocarnivore, quel intérêt tu as trouvé dans cette alimentation-là.
Oui, donc moi, je suis Salomé Selouk, j'ai 34 ans. Jusqu'à mes 26 ans, j'ai vécu plutôt une vie assez mouvementée, assez chargée de phobies scolaires, crises d'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, axé plutôt sur la restriction dans le sens où l'angoisse et le stress m'empêchaient de manger. Jusqu'à mes 26 ans, où effectivement, j'ai fait un burn-out, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, donc il y a vraiment eu un total chamboulement dans ma vie qui m'a mis à l'envers jusqu'à me faire vraiment tomber dans l'anorexie. Et par un parcours de 7 années d'anorexie où j'ai essayé de m'en sortir via des diététiciennes, psychologues, psychiatres, hospitalisation pour réapprendre à manger, ça n'a pas porté ses fruits parce que la problématique est beaucoup plus que s'alimenter tout court. Et dans mon cas, on a du coup décelé une HPI et un autisme Asperger à mes 29 ans, ce qui pourrait expliquer évidemment pas tout mon histoire parce que les troubles psychologiques, on est humain hein, de toute façon, mais ma particularité génétique et cérébrale fait que m'orienter vers une alimentation cétogène m'a facilité grandement les choses par la gestion des émotions, prise de recul, réussir à plus rapidement apaiser le système sympathique pour basculer en parasympathique, ralentir les réflexions en arborescence, voilà. Et du coup, incroyablement, par cette alimentation, j'ai trouvé ma place dans ma vie. Donc, déjà passionnée de pédagogie et de transmission, j'avais déjà fait de toute façon des études de professeur des écoles, puisque j'ai eu mon master. Je ne suis pas allée jusqu'au concours parce que ça ne collait absolument pas avec ma personnalité. Encore une fois, je ne suis pas, je n'aime pas rentrer dans les moules. Et pour moi, quand on prend un groupe classe de 30 enfants, c'est parce que moi-même, j'ai souffert de je ne suis pas comme les autres. Donc, moi, de voir un enfant que je ne peux pas aider pour ce qu'il est, c'était contre mes possibilités cérébrales, mentales, émotionnelles. D'accord. Donc, à travers du coup, ce travail que j'ai fait grâce à l'alimentation cétogène, je me suis sauvée la vie. Hein. On me réhospitalisait une deuxième fois pour me sauver la vie. Et j'ai dit non, je vais y arriver toute seule, je me lance en cétogène. Et la progression n'a été que là. J'ai repris 12 kilos en un an et demi et je suis sortie de la zone critique. Et j'ai remis mon cerveau à l'endroit, je lui ai donné le bon carburant. Et de par ma réussite personnelle et les bienfaits que j'ai pu observer, j'ai décidé de profondément aller là-dedans et de coupler mon diplôme de sophrologue avec un diplôme de naturopathie et travailler en autodidacte sur la connaissance sur le métabolisme cétogénique, puisqu'on n'a pas beaucoup de données. Et c'est de là que du coup je suis devenue naturo spécialisée en alimentation réduite en glucides, cétogène, kétocarni, et que j'ai créé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Oui, contrairement à toi Jean-Brice, c'est là-bas que je veux en fait que la moindre personne qui vienne sur mon compte ou sur ma chaîne puisse avoir des réponses pratico-pratiques mises en place tout de suite. Alors évidemment, ça ne vaudra jamais un suivi personnalisé, mais j'ai tellement cherché de réponses que quand je reçois une question, pour moi c'est comme un appel au secours, il faut que je donne la réponse. Si je sais pas, je le dis, mais j'irai la chercher en tout cas.
Alors, je comprends. C'est vraiment pour ça que j'adore ta chaîne. Hein. C'est parce que justement, quand on a besoin, on en a un doute, tu vois, tu nous fais du bien. Alors, j'ai néanmoins pas tout trouvé. Et on se heurte souvent dans le milieu du cétogène à des divergences de points de vue. Je vais partir, on va dire, de la philosophie, l'approche du Léry Génisson, hein, qui est plutôt une mouvance Atkins, alimentation riche en protéines, donc toujours du cétogène, et la mouvance, on va dire, qui est plutôt une mouvance un peu plus américaine, avec Stéphanie Keto-Person, qui a été reprise par Camarata, Johanna, je ne sais pas, tu connais, tu es un peu peut-être de cette mouvance-là, je ne sais pas exactement. Et on va parler de ces divergences, justement pour commencer. Alors la première, c'est sur ce qu'on appelle l'état de cétose. Alors, je fais juste un petit rappel bref sur ce que c'est en définition et puis on va voir les divergences de point de vue. Alors, l'état de cétose, on peut dire que c'est un état métabolique dans lequel se met l'organisme lorsque les niveaux d'insuline deviennent très bas et que les apports de glucides donc diminuent et le corps va aller modifier sa source d'énergie, l'emprunter dans les graisses qui va être transformé en corps cétonique en partie, mais aussi épuisé directement dans les graisses. Et on peut considérer que c'est l'état métabolique qui est le plus physiologique dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution de l'homme, hein, puisque depuis 7 millions d'années à peu près, on considère que l'homme 99% du temps a été dans cet état métabolique. C'est aussi l'état métabolique du bébé, des grands primates, etc., ou des petits primates d'ailleurs aussi encore aujourd'hui, hein, des singes, qui ont la capacité de transformer leurs fibres en acides gras saturés à chaîne courte, etc. Alors, je vais démarrer la question avec une citation de Gary Tops. Il dit « Une cétose légère, j'insiste là-dessus, est un état normal du métabolisme lorsque nous ne nous consommons pas de glucides, ou peu, qui durant 99,9% de l'histoire humaine n'ont pas fait partie de l'alimentation de nos ancêtres. La cétose est un état normal et particulièrement salutaire. » Voilà sa citation, qui est un nutritionniste, un Gary Top, bien connu. Alors, on sait qu'après 4 à 8 semaines de céto-adaptation, il y a des signes particuliers qui arrivent, et puis il y a un nouveau métabolisme qui se met en place. À partir de combien de taux de corps cétonique, de cétone, toi, tu considères que l'on est céto-adapté? Qu'est-ce que cela signifie sur le plan physiologique et en quoi ces corps cétoniques sont-ils intéressants pour l'organisme?
D'accord. Alors, on va commencer par reprendre ta thématique de l'histoire avec un grand H. Il faut savoir que ça ne s'arrête évidemment pas à 2 millions d'années, puisque ce qu'on appelle le premier domaine de la vie, c'est tout ce qui est microscopique, avec toutes les bactéries, dont les archées. Les archées qui sont estimées comme étant le troisième domaine de la vie, lesquels, pour moi, selon les lectures que j'ai pu faire, sont en fait les premiers domaines. Tout simplement parce que les archées sont appelées extrémophiles. Ils vivent que dans des abysses, dans des aires glaciaires, dans des endroits très acides. Et quel est leur substrat? Les corps cétoniques. Donc, il y a déjà des milliards d'années, les corps cétoniques étaient utilisés pour ce que j'estime le premier domaine de la vie, quand ensuite on est allé plus vers les procaryotes et les eucaryotes. Chose qui nous habite encore aujourd'hui, puisque nous avons des bactéries qui sont des archées. Et nous sommes de toute façon des hôtes. Nous ne sommes pas humains, nous sommes 40% humains, 60% bactéries et hôtes. Nous sommes hôtes. Donc, déjà, première chose, on peut déjà se faire cette réflexion que la cétose, elle est très utile pour parer toutes les difficultés environnementales et les situations extrêmes. Donc évidemment, on va évoluer jusqu'à notre histoire et on va pouvoir aller voir un peu ce qui se passait au niveau de nos ancêtres. Leur taux de cétose, je n'ai aucune idée de quel niveau elle était. Je pense qu'elle fluctuait énormément entre haute et très basse, de par des apports justement de glucides élevés pendant les périodes où il y avait besoin, une très haute cétose quand il y avait beaucoup de jeunes. Mais comment nous, aujourd'hui, soumis à la tentation et à l'alimentation une, deux, trois fois par jour, combien pouvons-nous nous attendre? Alors, pourquoi moi j'estime qu'il faut être à au moins 1,5 millimol de cétone dans les gens que j'accompagne? Tout simplement parce que une cétose, quelqu'un qui est métaboliquement sain mais qui n'est pas en alimentation cétogène, il est censé être en cétose au moins une fois par jour. Donc votre gamin de 15 ans, il est en cétose une fois par jour s'il est métaboliquement sain, même s'il mange des glucides. Tout simplement parce que le simple jeûne de 10 heures d'une nuit permet de rentrer en cétose. On appelle ça une cétose résiduelle qui est inférieure à 0,5. Donc déjà, tout être humain est censé être en cétose tous les jours. Si on va un peu plus loin et qu'on jeûne 24 heures, on va pouvoir aller au-delà de 0,5 millimol de cétone. Pour être estimé, pas forcément céto-adapté, mais pour estimer vivre d'une alimentation cétogène, il faudrait être en cétose H24. Sans parler de taux, mais il faut être en cétose. Sachant qu'on arrive à des hauteurs de 1 millimol à minimum 24 heures, ça voudrait dire qu'il faudrait au moins 1 millimol de cétose, de cétone, pour estimer d'aller vers la céto-adaptation. On pourrait s'arrêter là, on pourrait s'arrêter à 1 millimol. Sauf que si je vais plus loin, entre 1 à 3 millimol, tout ça sont très schématiques, parce qu'il est possible d'avoir plus ou moins en fonction des individus, mais de 1 à 3, on est plutôt de 1 à 3 jours de jeûne, où ce qui est intéressant, et c'est en ça que j'aime cette fourchette, c'est que c'est la cétose à l'effort. Et moi, ce que je veux, c'est que les personnes qui basculent en cétose soient en cétose sans jeûner plus de 48 heures, et soient en cétose sans effort. Donc, entre 1 et 3, on est dans cette fourchette d'un métabolisme en jeûne de plus de 24 heures et ou alors une cétose à l'effort, mais chez des personnes qui mangeraient gras. Et je ne m'arrête pas à 1 millimol parce que la cétose est très volatile. Et je vais prendre mon exemple. Moi, je me lève tous les matins, je me lève. Moi, je suis à 3 repas par jour minimum. J'ai 3 repas protéines gras et j'ai une collation. Ces 3 à 4 repas me permettent d'atteindre les 3 millimoles de cétone minimum tous les matins. Et je sais que quand je ne suis pas bien, Je suis stressée, j'ai du mal à me concentrer, je sens que je perds un peu le contrôle de ma vie ou de mes pensées. Je vais voir ma cétose et je suis à 1 ou 0,8. Et c'est souvent dans des moments où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai vraiment donné beaucoup, et ben je me retrouve un peu en état d'anxiété derrière. Donc, de par mon expérience, certes qui ne concerne que moi, mais mon observation sur mon état émotionnel et sur la théorie de la cétose, je souhaite que les personnes aient au moins 1,5. Pas 1, pas 0,5, 1,5. Parce que si jamais la volatilité de la chose les fait descendre à 1, c'est correct. Et si on est à 2, à 2,5, à 3, à 8, hein, au-delà de 5 jours de jeûne, c'est 8 minimum, mais il n'y a aucun souci. Je suis
Oui, on
déjà
va
monté.
beaucoup plus. Oui, bien sûr. Donc, on constate quand même que c'est effectivement assez variable d'un instant à l'autre dans la journée. Suivant que tu as un moment de stress, etc., tu vas libérer un peu de glucose, top, ta cétone va descendre un petit peu. Mais effectivement, toi, tu te laisses une marge. Mais quand Ulrich Génisson, il dit, c'est de la foutaise, toutes les sciences ont montré que même à 0,6 régulièrement, tu es quand même en cétose et que tu es quand même dans un état qui est favorable à la santé, etc. On ne peut pas lui dire, voilà, ce n'est pas quelque chose de faux en soi. Même à 0,6, 0,8 la journée, je suis quand même en cétose et je peux bénéficier quand même de l'intérêt de ces corsets toniques. D'accord? Toi, tu te laisses une marge qui est plus importante, mais qu'est-ce que ça fait d'être plus ou moins élevé en cétone? Est-ce qu'il y a des variabilités sur l'état inflammatoire? Quels sont le rôle vraiment des cétones en termes de santé?
Oui, alors avant les rôles en termes de santé, on va parler quantité. Il ne faut pas oublier que la cétose n'est pas un carburant qui est utilisé par tout l'ensemble de l'organisme.
Il n'y a pas que ça, oui.
Typiquement, nous, on ne va jamais jeûner pendant 6 mois comparativement aux ours qui hibernent. Et pourtant, eux, ils montent uniquement à 0,5 millimoles de cétone. Tout simplement parce que pour carburer, pour protéger, pour renouveler, d'ailleurs, quand on dit qu'ils sont en hibernation, ils ne sont absolument pas en sommeil, hein, ils sont très actifs. Mais ils ne font pas de cétone parce que la cétose est propre au cerveau. Un bébé qui naît dans les premiers mois de sa vie, si on ne lui donne pas à manger tous les 3, 4, 5 heures, il bascule à facilement 3 millimoles de cétone. Tout simplement parce que son cerveau demande 60% de la quantité d'énergie qui lui est apportée. Donc pour moi, la cétose, les gens que j'accompagne, ils cherchent à perdre du poids et ils pensent que ça passe par la cétose. Non, pas forcément. Ça dépend de l'énergie qui va être demandée en fonction du type d'organe. Alors pourquoi moi je cherche quand même les 1,5? Parce que si je m'assure que le cerveau est correctement nourri, je sais que ça va être plus facile par la suite pour maintenir une alimentation, comme on le disait, dans laquelle qui est dans un environnement qui est compliqué à tenir.
Et tu penses qu'avec 0,8, par exemple, ton cerveau n'est pas convenablement suffisamment nourri en corset tonique?
Je pense que si, puisqu'encore une fois, c'est volatile, donc 0,8, ça peut être 1,2. Je ne suis pas vraiment sur 0,4
Ces chiffres-là, en fait, ils viennent d'où? Non, mais comment on peut savoir qu'à partir de ce taux-là, on va dire un état énergétique hyper favorable pour le cerveau?
Sachant que le cerveau fonctionne également sur les glucides, je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher dans le catabolisme musculaire ou la glycogénolyse, d'aller voir s'il y a un autre substrat qui a été appelé à ce moment-là, et ça voudra dire qu'on est en carence de cétone.
Je comprends mieux, c'est-à-dire que tu fais un parallèle entre le niveau de cétone et le risque de perdre de la masse musculaire ou d'être
Ou
dans un
du
état de virilité qui n'est pas suffisant, enfin, je veux dire, qui n'est pas adapté.
Oui, ou du glycogène, sans parler forcément de
Oui,
catabolisme.
d'accord.
Et pourquoi je cherche les 1,5? Pour justement éviter le plus possible les débalancements entre les différentes sources d'énergie, lesquelles vont forcément générer des fringales et des troubles du comportement.
Plutôt un état catabolique, tu évites, c'est pour éviter cet état-là en fait.
Justement, oui, parce que sur un corps fragile qui démarre tout juste l'alimentation cétogène, c'est dangereux de revenir à un carburant glucidique. C'est très compliqué parce que la personne, et c'est là où, attention, on parle de chiffres, on parle de chiffres, mais je vais le sentir tout de suite si la personne elle est en cétose ou pas dans ses dires, dans ses mots MAUX. Et le fait de basculer, de rebasculer sur les glucides par de la glycogénolyse, parce que un petit coup de cortisol a fait monter et la cétose ne suffit pas à pallier ce stress, la personne elle va me dire, Salomé, j'ai des envies de ça, je perds les pieds, je dors mal. Et si effectivement elle est à 0,8 ou 1 millimole, on n'est pas assez haut pour elle.
Alors, tu penses qu'elle peut rebasculer dans un métabolisme glucidique, enfin du moins momentanément, et que là, ça poserait problème parce que ce va-et-vient constant, c'est ça surtout qui est problématique, qu'il faut éviter.
Parce que ça va faire émerger des symptômes que les personnes ne savent pas gérer. Ça va envie de sucre, forcément. Ça va refaire appel au circuit de la récompense.
Oui, je comprends. Donc là, tu te places pour des personnes qui sortiraient de cétose de temps en temps. Est-ce que quelqu'un qui arriverait à rester en cétose, alors je parle de ça parce que c'est vraiment le cas de ma femme et le mien, pas loin, parce que nous, on fluctue entre 0,6 et 1,6, tu vois, tout le temps. A priori, on ne sort jamais de cétose. Mais on ne peut pas savoir, vraiment, il y a peut-être un moment où on est sorti, bon, on ne sait pas. Mais on n'est pas sur des taux très élevés et on n'arrive pas à les élever ces taux malgré le fait d'augmenter le gras. Alors justement, je vais te poser une question par rapport à ça et par rapport aux graisses. Pour Ulrich Génisson, le fait de rajouter du gras en plus de l'alimentation qui est déjà, on va dire, basée sur une nourriture animale déjà grasse et protéinée, donc lui, il est sur des protéines assez élevées et des graisses non ajoutées, il n'en ajoute pas beaucoup. Il dit que c'est pas nécessaire d'ajouter et d'aller sur des taux comme on peut voir sur pas mal de chaînes ou personnes qui incitent à consommer du gras. Aller entre 150 et 200 grammes de graisse ajoutée pour arriver à des taux de cétone suffisamment hauts. Lui, donc, s'oppose à ça et dit, ça n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé de mettre autant de graisse que ça. Et on peut très bien rester à des niveaux de cétone, en dessous de 1, mais être vraiment en cétose et avoir une bonne énergie et une santé optimale. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces 200 grammes de graisse ajoutées pour toi sont absolument nécessaires? Et est-ce que ça varie pas en fonction des gens aussi? Enfin, quel est ton point de vue là-dessus?
Ouais, avant de te parler des 200 grammes ajoutés, je tiens juste à te dire que sortir de cétose, d'un point de vue numérique, ça peut être tourné à zéro. Mais moi, j'estime pas que ce soit ça, sortir de cétose.
Oui, c'est en dessous de 0,5, on va dire, c'est ça à peu près.
Je parle pas en chiffres pour moi où tu descends en dessous des 1. Ça veut forcément dire que tu es basculé à un moment donné sur une utilisation glucidique via l'insuline. C'est-à-dire que si on n'a pas pu perpétuer cette fabrication de cétone, ça veut forcément dire qu'il y a une sécrétion d'insuline, puisque c'est antagoniste. Donc
D'accord.
ça veut dire que tu es entre les deux. Ça s'appelle la flexibilité métabolique. Mais encore une fois, à corréler avec les symptômes de la personne. Donc moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un soit à 0,8 ou 1 s'il y a tous les symptômes d'une flexibilité métabolique clairement installée. Pas de difficulté à basculer de l'un à l'autre. Mais chez les personnes que je prends en charge, il faut souvent beaucoup plus de semaines et beaucoup plus de millimoles de cétone pour instaurer ces comportements liés à la flexibilité métabolique. Et pour les 200 grammes de matière grasse ajoutée, alors moi, je ne suis pas du tout partisane de ça, tout simplement parce que, en fait, la cétose ne se base absolument pas sur le taux de lipides apportés. La cétose, c'est comme je viens de le dire, c'est hormonal, c'est-à-dire on arrête de faire l'insuline, on fait du glucagon, on fera forcément des cétones. Une fois vidé les stocks du glycogène, qu'il y ait du gras ou pas apporté. Et ça, encore une fois, c'est qu'une histoire de mitochondrie et de déblocage ou blocage métabolique. Par contre, venir apporter du gras, à quoi ça sert? Rassasier l'organisme, remettre en place les surrénales, éviter justement de mettre plus de temps à arriver à cette cétose et à cette cétoadaptation, et surtout montrer à son corps que c'est son nouveau carburant, parce que de toute façon, on n'est pas en jeûne, donc il faut s'alimenter de toute façon. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de surdosage, et pour moi, il n'y a pas un minimum. En tout cas, ce minimum n'est pas chiffré en termes de 200 grammes. Pour moi, il est chiffré en termes de propre à la personne. Et là, je vais être sur du 15-25 ou du 80-20, typiquement 1 gramme de kilo de poids de corps de l'instant T, 2 grammes de gras en fonction du nombre de protéines.
D'accord, donc tu sers un rapport, 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de graisse par kilo de poids de corps, un pour un.
C'est ça, avec quelques subtilités. Pourquoi 1 gramme? Parce que 1 gramme de kilo de poids de corps de l'instant T va représenter 1,3 gramme de masse maigre. Et j'estime que c'est bien d'être dans ces eaux-là. Et comme on ne sait jamais quel est notre taux de masse maigre, on n'arrive même pas à avoir une glycémie à jeun, alors tu te doutes bien qu'un DEXA-scan, on n'en a pas un comme ça. Donc je pars sur 1 gramme masse totale, avec quand même certaines bornes. Par exemple, une femme qui pèserait 120 kilos, je ne lui fais pas manger 120 grammes de protéines. Encore là, il y a beaucoup de débats. 30 grammes de protéines par repas pour une femme, ce serait trop. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ont tellement été dans l'hypocalorie et ils ont peur du gras. Je préfère de la glycogénolyse sans hypocalorie plutôt que de limiter beaucoup trop les protéines et qu'il y ait des craquages glucidiques ou une peur d'aller vers le gras sans vouloir augmenter les protéines. Et moi, en tant qu'ancienne anorexique, je l'ai vécu. Je me suis lancée cétogène avec faut pas trop de protéines, il faut pas trop de gras. Et du coup, ça peut entretenir. Alors que je préfère pousser les gens à consommer. On voit ce qui se passe sur le plan de la réparation, parce qu'encore une fois, de la glycogénolyse ou de la néoglycogénèse, il n'y a rien de mauvais. Oui, ça peut aller jusqu'à la stéastose hépatique, mais on aura le temps de le voir arriver d'ici là. Mais au moins, je remets en place les hormones, je remets en place le gras et on avance doucement, pas à pas, vers des taux équilibrés.
D'accord. Et donc, le rapport protéines par rapport au poids de corps, etc. Donc, il y a aussi la polémique, hein. Il y en a qui pensent qu'on ne mange jamais assez de protéines. Moi, je me suis intéressé un petit peu à la notion de protéines et longévité, les travaux de Longo, etc. On sait que jusqu'à un certain âge, jusqu'à 60, 65 ans, apparemment, il faut pas forcément autant de protéines qu'on le dit. Hein, c'est-à-dire que le chiffre de 1 gramme, on ne sait pas trop comment il est mis en place, etc. Sachant que, bon, on fabrique, on recycle aussi beaucoup de protéines. Hein. Il n'y a pas que les protéines qu'on apporte et celles qu'on élimine. Il y a celles qu'on recycle à travers l'autophagie, qui existent la nuit, etc. Bon, ça, c'est des données qui ne sont pas forcément données par tout le monde. Mais dès qu'on rentre dans un système où on mange autant de protéines qu'on veut, alors après 65 ans, ça change. Hein. On métabolise moins bien, donc il en faut un peu plus apparemment. Et ça serait plus efficace pour la longévité d'en consommer un peu plus qu'un gramme par kilo de poids de corps lorsqu'on dépasse l'âge de 65 ans en moyenne. Donc ça, c'est des résultats de travaux. Bon, voilà. Par contre, avant, on sait que quand on mange beaucoup de protéines, on active quand même la voie métabolique mTOR et les IGF, tu sais, les facteurs de croissance, etc. Et ce serait moins intéressant, apparemment, en termes de longévité. Mais non, c'est les travaux de Longo, c'est sur des souris, c'est pas encore sur du long terme fait sur l'homme, etc. Donc ça, c'est encore un peu compliqué. Par contre, par rapport à la notion de longévité, j'aimerais bien justement venir là-dessus, puisque on voit beaucoup de chaînes qui parlent de métabolisme, de cétogène et amélioration. Alors, on sait que cette amélioration sur les maladies métaboliques, hein, sur les maladies neurodégénératives, on sait que sur Alzheimer, c'est très intéressant, les épilepsies, perte de poids, on en a déjà parlé. Mais même sur la chaîne, par exemple, Sequoia Santé, hein, c'est des neurologues qui s'intéressent à la longévité, il n'y a pas d'études, du moins de témoignages. Alors, c'est difficile, puisque témoignages, on ne peut pas, mais d'études qui mettent en relation l'alimentation cétogène et l'impact sur la longévité. C'est-à-dire qu'est-ce que vraiment on vit plus longtemps en cétogène si on était en cétogène depuis longtemps? Alors le problème, je sais bien que tu vas me répondre, c'est que c'est quelque chose qui est connu depuis, on va dire, une quinzaine d'années, ben, 100 ans pour les épilepsies, etc. Mais vraiment, les études approfondies sur cétogène, ça date d'une quinzaine d'années, un peu plus, mais vraiment aujourd'hui, ça a explosé. Et par contre, si on regarde d'un autre côté, les peuples qui vivent centenaires, tu sais, dans les Blue Zones ou même à Monaco ou des endroits du monde, on s'aperçoit que leur alimentation, qui est un des, on va dire, 10 facteurs de longévité, c'est pas le seul, hein, il faut bien faire très attention quand on parle comme ça. C'est que ben, il n'y en a aucun déjà qui s'alimente à peu près de la même façon. Il y a une dominante végétale dans tous ces pays-là. Il y a toujours un petit apport de viande, de lard, de choses comme ça. Par exemple, à Icarie, c'est des lentilles, du fromage de chèvre, tu vois, des fèves et du lard. À Okinawa, c'est beaucoup de végétaux, du poisson et du soja. Et en Sardaigne, il y a beaucoup plus de pâtes, tu vois, et de féculents. Alors qu'ils vivent très vieux, hein. Même si c'est qu'une vallée de Sardaigne, ils ont une alimentation qui est quand même relativement glucidique. Alors, j'aimerais ton point de vue sur l'impact du cétogène sur la longévité et voilà ce que tu aurais à dire à peu près autour de cette notion-là.
Oui. Alors, toi, tu as parlé tout à l'heure d'études portant sur les souris. Moi, c'était sur des rats que j'avais étudié la chose sur la longévité par rapport à l'acétose. Donc, ils n'avaient pas mesuré l'acétose dans cette étude, mais ils avaient été voir un petit peu est-ce que les rats mouraient lorsqu'ils étaient en restriction calorique. Et ils avaient une augmentation de leur vie de 20%. La restriction calorique va forcément pousser à la cétogénèse et à l'autophagie. Donc, on peut parler effectivement de néoglycogénèse, puisqu'il va y avoir une restriction calorique. Donc, on peut potentiellement aller puiser dans ses muscles et dans ses réserves minérales, sauf sur un métabolisme sain, où on va pouvoir potentiellement switcher sur ses corps gras. À partir de là, quand tu me parles de Blue Zone, moi, la première chose qui me vient, c'est, je sais que ces populations, première chose qui est assez flagrante, c'est qu'elles sont bord de mer. Donc, déjà, il y a un impact hyper important, je pense, de l'iode, qui aujourd'hui est la base de tout, hein, au niveau de la thyroïde. Donc, je
Alors,
pense que c'est
pas toutes les blue zones. Attention, hein. L'alimentation et nutrition, c'est qu'un des 7 facteurs vraiment importants dans la longévité. C'est même pas le plus important, de loin pas le plus important. Et tu as des peuples dans les Blue Zones comme Loma Linda, c'est des communautés hein, souvent qui ne sont pas forcément en bord de mer, mais la plupart le sont, c'est vrai, tu as raison. Mais au Nicaragua, ce n'est pas le cas. Mais voilà, bon, après, c'est tellement complexe la longévité que je voulais juste ton avis sur cétogène. Est-ce qu'il y avait eu des données sur l'humain mais...
Moi, c'était plutôt sur la cétose que je m'étais penchée quand j'étais justement sur cet aspect de pourquoi on vit mieux plus longtemps. Et donc, par rapport à ces blue zones, où forcément on en a entendu parler de ces centenaires, c'était pour moi la restriction calorique également. La restriction calorique et les IG bas, qui allaient forcément développer une flexibilité métabolique. Et comme je le disais tout à l'heure, pour un métabolisme sain, basculer en cétose au moins une fois par jour. Et donc, c'est là où qu'est-ce que la cétose peut avoir à faire sur la longévité. Et moi, j'ai toujours été assez fascinée par les télomères. On sait qu'elles raccourcissent très vite par nos modes de vie aujourd'hui et comment l'alimentation peut essayer de les réduire. Alors, ce qui est intéressant avec l'alimentation cétogène, c'est que si on veut bien la faire, on ne s'arrête pas à l'assiette. On s'arrête à l'hygiène de vie, le sommeil, du stress, le mouvement. Donc, je pense que quelqu'un qui est en cétose ou céto-adapté a une hygiène de vie correcte. Et du coup, ça rentre quand même en jeu dans la longévité de ne pas s'arrêter seulement à l'assiette. Dans tous les cas, la cétogenèse, elle impacte notre ADN dans le bon sens. Déjà, elle est anti-inflammatoire, elle protège le cerveau, réduction de la sécrétion d'insuline. Donc forcément, on va avoir toutes ces cascades pro-inflammatoires qui vont être réduites. Mais ce qui est super intéressant, c'est vraiment au niveau de l'ADN et de l'hélice. L'acétose va permettre d'inhiber ou d'activer certains gènes. Je sais que dans ma formation glucose contrôle, je leur parle souvent que l'épigénétique est primordiale et qu'on peut décider de ce qu'on met en route ou pas dans notre vie. Et l'acétose, le bêta-hydroxybutyrate, va permettre d'agir sur les histones des acétylases. C'est des petites briques qui se collent entre elles autour de laquelle va se mettre l'ADN. Et en fonction de comment elles sont activées ou désactivées, il va y avoir des expressions de gènes. Et le plus important de tous, et c'est pour ça que je reviens à la restriction calorique, c'est que le gène le plus activé, le plus entretenu par l'acétose, c'est l'autophagie. Et ça, je pense que c'est primordial, surtout quand aujourd'hui on rencontre des cas de cancer et de tumeurs, c'est souvent dû à des troubles de l'autophagie et du tri.
Et l'insuline a un rôle très important, le fait de faire chuter l'insuline, on sait que ça influence aussi les télomères et tous les facteurs de longévité sont impactés par cette baisse. Il n'y a plus d'activation du mTOR hein, qui est trop important. Après, il faut quand même l'activer, hein, ce facteur, on va dire ce qu'on appelle les facteurs de croissance et tout ça. Hein. Il y a des âges pour et des âges contre, voilà. Mais l'insuline a un rôle très important là-dedans.
Alors oui, on a les activés justement, et comme tu le disais tout à l'heure par rapport aux différentes protéines, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va parler d'alimentation hyperprotéinée, on met tout dans le même sac. Comme quand on dirait mon alimentation riche en graisse, ça ne veut rien dire parce que je ne vais jamais te donner d'huile de colza. Par contre, je peux te donner plein de beurre. Bah, une alimentation hyperprotéinée, ça ne veut rien dire. Parce que pour moi, si tu manges du blanc de poulet ou même du muscle maigre, tu ne vas pas aller loin avec ça au niveau de ton métabolisme. Donc, une alimentation hyperprotéinée, c'est un ensemble d'acides aminés et suffisamment riche en minéraux de qualité. Attention à l'histidine, à l'arginine, et être plutôt sur de la proline, sur de la méthionine, sur de la glycine, sur de la lysine. Et tout ça, en fait, j'entends souvent des personnes qui me disent, moi, je prends plutôt le jaune que le blanc d'œuf parce que j'ai peur d'être intolérante. Mais tu vas créer des déséquilibres ailleurs, en fait. Moi, je pense que l'hyperprotéiné, c'est l'hypermusculeux.
Je rebondis sur ce que tu dis, c'est très intéressant parce que j'ai justement fait des recherches là-dessus et effectivement, ils en sont venus au fait que ce ne soit pas l'hyperprotéiné qui était le plus gênant, c'est le fait qu'il y ait un déséquilibre méthionine et glycine. Parce que justement, on ne consomme pas assez de produits contenant des glycines, c'est-à-dire plus particulièrement les cartilages, les moelles des os, hein, voilà, tout ce qu'on va trouver dans ces parties que prenaient nos ancêtres. Et aujourd'hui, il y a trop de parties musculeuses. Justement, c'est ce petit déséquilibre-là qu'il faut éviter. Alors, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que j'ai tellement d'autres questions, j'aimerais vraiment avancer. Je vais parler avec toi un petit peu de la complémentation et de chute d'insuline parce que ça me pose un petit problème. On sait qu'on a une baisse de l'insuline quand on fait du cétogène, hein, c'est l'objectif recherché d'ailleurs, et puisque l'insuline donc envoie un signal au niveau du rein qui fait que le rein ne va plus retenir les minéraux comme il les retient habituellement dans un régime glucidique. Donc on va se retrouver avec des fuites minérales, hein, le sodium va partir avec le potassium un petit peu, éventuellement d'autres minéraux. Et si on ne compense pas par du sodium, d'autres minéraux éventuellement, mais surtout du sodium, à des taux beaucoup plus élevés que ce que conseille la médecine aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle l'effet de grippe cétogène. Donc ça, je veux bien l'admettre et je le conçois très bien, on l'observe, c'est facile. Par contre, la question que je me pose, c'est si on considère que l'alimentation cétogène est une alimentation ancestrale, celle de nos ancêtres depuis des centaines de milliers d'années. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à leur époque, on peut imaginer qu'ils ne consommaient pas autant de sel que ce qui est prescrit quand on fait du cétogène. C'est-à-dire que nous, il nous en faut au moins 10-12 grammes, voire plus pour toi, je sais que tu en consommes beaucoup plus. Et par contre, ils avaient un rapport, apparemment, dans les données, avec d'apport sodium-potassium, qui est plus en faveur, bien sûr, du potassium. Hein, et ils avaient des taux de sel beaucoup moins élevés que ce qu'on conseille aujourd'hui. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on doive se complémenter alors qu'on peut se rapprocher d'une alimentation qui soit quasiment identique, alors c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est pas du gibier, etc., mais très proche de celle de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire, mais on est quand même obligé de prendre du sel. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Bah, la première chose, c'est que les personnes qui arrivent en alimentation cétogène, elles ont 60 ans, 40, 50, 60, 70.
Ouais, je connais des jeunes quand même.
Hein ?
Je connais quand même des jeunes.
Oui.
De 30 ans qui font du cétogène.
Mais évidemment, mais pour te dire que, je veux dire, c'est pas comme si tu étais né en cétose et tu étais resté. On a des corps derrière qui sont poreux, il y a des stress, il y a des traumatismes, il y a beaucoup de médicamentation. Et ça, forcément, tu peux absolument pas transcrire ce que vivaient nos ancêtres avec nous aujourd'hui. En plus de cela, on va de toute façon être en carence, dans le sens où on est en carence de tout aujourd'hui par rapport à avant. Carence de mouvement, carence de soleil, carence de détente. Et ça, forcément, ça va agir. Regarde, par exemple, le sel. Le sel, quand on va venir le consommer, ça va nous pousser à fabriquer de l'oxyde nitrique. Bah, à l'époque, ils n'avaient pas besoin de sel pour fabriquer de l'oxyde nitrique parce qu'ils étaient toujours en mouvement, toujours à l'extérieur, à respirer par le nez, à être sous les arbres. Il y avait un environnement qui poussait à ce côté primate. Ce côté où un rien fait du bien, sentir une odeur, se bouger aujourd'hui.
On va dire qu'ils étaient, on est d'accord sur ce plan-là, je conçois qu'ils étaient super adaptés à l'environnement dans lequel ils vivaient, ils n'avaient pas de contraintes qui allaient les carencer ou mobiliser leurs ressources minérales, etc. Ça, je le conçois, même okay. Si ils avaient quand même des vies très très pénibles, ils devaient chasser quand il faisait moins 8 degrés, voilà, ils étaient obligés quand même de bouffer un petit peu leurs réserves. La question que je me pose, c'est pourquoi nous, on est quand même obligé d'ajouter du sodium, parce qu'ils avaient des taux d'insuline qui devaient être très bas à des moments donnés. Ils avaient des périodes de jeûne, ils avaient des périodes où ils bouffaient que de la graisse, on est d'accord. Donc, ils avaient sans doute des taux d'insuline super bas, mais ils ne pouvaient pas avoir les 10-12 grammes de sel apportés par jour. Ils ne les trouvaient pas dans la nature. Donc, comment ça se fait que nous, en cétose, on soit obligé de rajouter autant de sel ? Et d'ailleurs, est-ce que ça n'a pas un impact négatif un peu sur une usure de rénale ou d'autres choses, hein, je ne sais pas. Et pourquoi nous, on le fait et pas eux ?
Alors, il faut déjà savoir que même si tu ne t'apportes pas suffisamment de sel, tu vas fabriquer de l'insuline. Si tu ne t'apportes pas de glucides et que tu ne t'apportes pas de sel, tu vas faire de l'insuline pour faire effet justement du sodium qui manque. Pourquoi aujourd'hui, on est obligé d'en rajouter ? Mais on n'est pas obligé d'en rajouter, en fait.
On n'est pas obligé, oui.
On fait face au keto flou, on fait face aux symptômes. Et en utilisant le sel, on est sûr d'y pallier. Et on va voir que les personnes urinent moins, cancer mieux. Il faut savoir que les troubles cardiaques, c'est généralement lié à une carence en sel. Parce que pour 3 molécules de sodium éliminées, c'est 2 molécules de potassium conservées. Donc au contraire, quand on va venir augmenter le turnover au niveau du filtre urinaire, on va réussir à conserver davantage de potassium. Donc, ce n'est pas dangereux de prendre trop de sel. Le corps, il est très bien prévu pour ça, à la condition d'avoir un système rénal correct, de suivre sa cystéine C, parce que sinon, si on s'arrête au débit du filtrage glomérulaire, on risque de passer à côté et d'agir un peu trop tard. Mais si on n'a pas de problème de trop forte résistance à l'insuline, qui induirait du coup une hypertension.
C'est dans un contexte où tu ne manges pas trop de glucides, on est bien d'accord, hein, gênant, si tu n'as pas une alimentation, on va dire, hyperglucidique, une insulinémie trop élevée. On est d'accord, hein.
J'irai quand même plus loin, c'est pas que parce qu'on a réduit les glucides. Parce que quelqu'un qui me fait un œuf de Homa, forcément, il aura de l'hypertension. Donc, même en basculant en cétose, en tout cas, en basculant en absence de glucides, en réduisant en glucides, on ne parle pas de la cétose tout de suite, à mon avis, il n'a pas besoin de sel, lui. Parce qu'il a déjà un certain flux d'insuline important dans son organisme que ça fait office de rétenseur. Donc, d'accord. Oui, il a besoin de sel.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand tu as une insuline qui est basse, tu sois obligé, alors que c'est normalement une insuline, moi je suis à, mettons, à 3 d'insuline, tu vois, unité internationale, c'est assez bas. Pourquoi, à ce niveau-là, qui est un niveau, à mon avis, physiologique, hein, c'est un niveau de nos ancêtres, pourquoi si je ne rajoute pas un peu de sel, eh bien, je vais avoir une petite crampe occasionnelle, alors qu'avant, j'en avais pas besoin, tu vois.
Le facteur génétique et épigénétique de notre ère, qu'on va forcément souffrir de porosité, de micro-inflammation, de stress qui vont être minimes de micro-inflammation et ça va forcément impacter. Par exemple, quand tu vas consommer quelques glucides, tu vas taper dans tes vitamines B1. Tu vas avoir un déficit qu'il va falloir relever. Mais en s'apportant une autre vitamine B, tu vas potentiellement aller taper dans d'autres, par exemple la vitamine C. Et aujourd'hui, quand on se base sur les bilans sanguins, c'est le flou total. Parce que par exemple, la B9, on va pouvoir l'observer, sauf qu'on ne sait pas laquelle est activée dans le total qui est relevé. Idem pour tout ce qui va être fer. Si on n'a pas une ferritine au taquet, on ne sait pas qu'il y a une inflammation. Et encore, la majorité des médecins ne te disent même pas que tu as un syndrome métabolique. Aujourd'hui, s'il y a ces besoins de supplémentation, c'est parce que malgré le fait que notre génétique et notre ADN ne mutent pas si vite, je pense que les dégâts engagés, tout à l'heure tu parlais de Taubes, il le dit bien, l'alimentation cétogène ne répare pas un corps, elle diminue les effets négatifs du passé. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une empreinte. Peut-être qu'aujourd'hui, si un enfant naît aujourd'hui en 2024 en cétose et reste en alimentation cétogène, on devrait voir avec le fils de Boris de la chaîne Sequoia du coup. Peut-être que lui, il n'aura jamais besoin de supplémentation parce qu'il a un corps qui n'a pas rencontré l'épigénétique des soucis, mais peut-être que si, tout simplement parce que son ADN a quand même été endommagé à un moment donné. Moi, je sais que, par exemple, en tant qu'ancienne anorexique, on m'a souvent dit que j'allais léguer ça à mes enfants. Pourtant, j'ai personne, moi, qui est anorexique, mais on me marque quelque part. Et toi, tu es spécialiste en psychobiologie, c'est ça, tout ce qui est
On
somato.
sait qu'on transmet beaucoup de choses, mais on peut aussi réparer beaucoup de choses et transmettre ce qu'on a réparé aussi.
Selon toi, on ne répare pas. Mais pour le coup, j'ai plus d'espoir que ça en l'être humain et en la science et au métabolisme. Je pense qu'on peut réparer. Enfin,
Bien sûr, heureusement. Je vais aller sur un autre domaine. Récemment, je me suis intéressé un petit peu à ce pourquoi certains qui étaient carnivores ou cétogènes ont réintroduit un peu de glucides dans leur alimentation. Je ne sais pas si tu as entendu, tu connais Paul Saladino, hein, par exemple, qui était un pro du carnivore pendant 1 an et demi. Il explique qu'il est important quand même de ne pas descendre à des taux d'insuline trop bas, parce que cette insuline trop bas ou cet état de cétose, même bien adapté, génère parfois des petites crampes, des palpitations, un sommeil un peu perturbé, et surtout des niveaux de testostérone plus bas. C'est-à-dire qu'en supprimant des glucides, il s'est aperçu que même en cétose, il y avait des niveaux de testostérone qui n'étaient pas au top pour lui. Pour lui, hein, attention, parce que ce n'est pas ce que disent toutes les études. Et le fait de rajouter un petit peu de glucides sous forme donc de fruits ou de miel, parce qu'il est paléo, hein, enfin, il reste dans ce modèle-là, l'ont amélioré. C'est-à-dire qu'au niveau performance sportive, peut-être aussi, tu vois, il est peut-être dans ce raisonnement-là, hein, aussi. Mais au niveau hormonal aussi. Lui, il estime que on est fait biologiquement pour supporter des petits pics de glucose et d'insuline. C'est-à-dire que si notre insuline, elle monte, notre glucose, il monte même à 150, tu vois, 1,5 g, après un repas, c'est pas quelque chose de gênant. Tu vois, c'est quelque chose, c'est des fluctuations, alors que ces fluctuations-là, elles sont parfois diabolisées en nous disant que tous les maux viennent de ces hausses d'insuline. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce point de vue à ce niveau-là. Et je vais rebondir avec un exemple qui est celui de mon père qui a 84 ans, qui a des taux de glucose sans être en cétogène très bas, c'est-à-dire qu'il est entre 0,5 et 0,6 de glucose. Et on sait que quand, donc sans doute qu'il a de l'insuline très bas, hein, malgré le fait qu'il mange un peu de protéines et tout ça, il n'arrive pas à reprendre du poids. Donc, il a énormément perdu de poids en vieillissant. Il a 53 kilos pour 1,69 m. Et on dit que lorsque, ça c'est les médecins qui travaillent, hein, au niveau hormonal, qui expliquent que lorsque nos taux d'insuline chutent trop bas, on se décharne. C'est-à-dire qu'on perd de la masse musculaire aussi. Ce qui a été observé chez. Alors, moi, j'ai des personnes qui font du cétogène, qui ont tendance à être des bons brûleurs de sucre. Je considère que ce sont des gens très rétractés déjà au départ, qui ont des capacités aérobies, etc. Et eux, lorsqu'ils passent en cétogène, peuvent rapidement perdre du poids, même du muscle. Tu vois? J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette vision-là, de l'insuline et des risques de perte de poids.
oui. Alors, bah, je suis d'accord avec Paul Saladino que le corps humain est prévu pour rencontrer certains pics de glycémie. On ne parle pas de 4 pics de glycémie, petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, où il n'y a que des croissants et des pâtes. Donc oui, de temps en temps, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est fait pour ça, le pancréas. Par contre, maintenant, ça va être combien de fois par jour ou par semaine, sur quel type de métabolisme. Deuxième chose, de passer de 1 gramme de glycémie à 1,5 g, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas ce
Oui.
que j'appelle un pic de glycémie. J'ai des gens, ils sont à 80 avant de manger cétogène et après un repas parfois cétogène, ils montent à plus de 1,7.
Il y en a
Là,
deux facilement.
mais oui, donc ce n'est pas vraiment un pic de glycémie. Donc si lui, il fait ça, c'est possible que si je donne le même repas à quelqu'un qui souffre de résistance à l'insuline, là oui, et le plus dangereux, ce serait même pas le pic de glycémie, ce serait la persistance de la glycémie dans le temps sur la journée qui reste haute et donc qui fait appel à l'insuline sur le temps, avec un espace sous la courbe beaucoup plus long que s'il y avait juste un pic, avec une courbe beaucoup plus élevée toute la journée qui demande du coup une masse d'insuline assez élevée. Il y a deux types de métabolisme à ce moment-là. Saladino, il est hyper sec, il est hyper musclé. Évidemment que lui, tout ce qu'il prend, il crame. Il passe en cétose tous les jours.
Il a
Donc
une
bon.
flexibilité qui est bonne, surtout qu'il a déjà été carnivore, donc
Sans lui en vouloir, en fait, parce
moi je
qu'en
lui en
fait,
veux pas, moi. Je veux rien du tout.
de personnes qui sont choquées, comme si c'était un abandon de l'alimentation
Pas
carnivore.
du tout, pas du
Il
tout, oui.
y a une alimentation pour chacun, pour chaque esprit et pour chaque corps.
Et pour chaque objectif que l'on a aussi, hein. Mais
Exact.
je reviens juste sur sa notion d'insuline et de testostérone. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si une personne âgée, elle perd trop d'insuline. On sait que dans la médecine anti-âge, c'est quelque chose qui est contrebalancé, c'est-à-dire qu'on le traite carrément, hein, je veux dire, cette chute d'insuline. Toi, tu vois pas un danger à avoir des taux d'insuline trop bas quand on est âgé?
Non, dans le sens où je dis pas que c'est pas dangereux, et là j'ai pas assez de recul parce que j'ai pas de personne âgée en carence d'insuline, très très loin de là.
Oui, c'est souvent l'inverse.
Par contre, pour moi, c'est confondre corrélation et causalité. Est-ce qu'une personne qui se décharne, comme tu dis, est-ce que c'est forcément à cause de sa très forte réduction d'insuline? Je ne sais pas. Il faudrait pas aller voir s'il y a des blocages métaboliques quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas des déficiences en minéraux, en vitamine B, en acides aminés, en carnitine qui récupère l'énergie, mais aussi en taurine pour récupérer l'énergie liée justement aux minéraux? Pour moi, ce serait trop réducteur que de dire il y a une carence d'insuline et il y a des gens qui se décharnent. Et en plus de ça, pour prendre de la masse musculaire, je vais aller chercher IGF-1, pas forcément. Alors, ça va sécréter de l'insuline, mais je vais pas forcément aller chercher une hormone de croissance hormis IGF-1 que je vais utiliser à travers les produits laitiers. Donc, j'ai pas
Oui,
forcément.
lactosérum, c'est très bien, ouais, par exemple. Alors, je te donnais cet exemple-là, c'est celui de mon père. J'essaye de lui faire introduire le plus possible de viande rouge, tu vois, de carnitine, de choses comme ça, justement, hein, de whey, de produits animaux. Hein, et il a du mal à basculer. Alors, il en prend, hein, heureusement, tous les jours un petit peu. Mais après, il y a la capacité digestive, le flux biliaire, etc. Donc, il faut tenir compte chez une personne âgée de tout ça, quoi.
J'allais te dire, personne âgée est très souvent hypochlorhydrique, donc déjà savoir si elle assimile correctement sa B12 et son fer.
On a essayé de corriger aussi, oui.
Dans bilan sanguin à observer, mais je m'arrêterai absolument pas
À
sur la.
l'insuline. D'accord. Allez, on rentre dans un sujet polémique.